Bac FM, il est 18h30. Aujourd'hui, focus sur la profession d'infirmier anesthésiste dans ce nouveau numéro de Job. Sylvain Leflon est mon invité pour évoquer son parcours, son engagement et son quotidien professionnel. Bonjour Sylvain Leflon.
Bonjour.
Vous êtes infirmier anesthésiste à l'hôpital de Nevers. C'est la première fois que je reçois une profession hospitalière, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, professionnel de santé.
Merci d'accepter en tout cas mon invitation sur Bac FM pour parler de votre profession très importante qui peut être des fois peut-être pas assez considérée. On va revenir d'ailleurs sur ce sujet. Vous êtes représentant national pour votre profession. C'est l'étape d'après avoir été vice-président de l'Association nationale des étudiants infirmiers anesthésistes. C'est un engagement que vous avez depuis toujours donc, et ça aussi on va revenir dessus. Vos conditions de travail et votre quotidien également, avec le mauvais mais aussi le bon, car je pense qu'il y a quand même un petit peu de bon.
Oui, totalement.
Dans cette profession, on va pas non plus l'enfoncer.
Ah non. J'adore mon métier et je faisais une profession très intéressante.
Bon, ça fait quand même pas mal de choses à voir ensemble. Avant tout ça, quand même, on va poser les bases, on va dire. Ça veut dire quoi, être infirmier anesthésiste ?
Ah, très bonne question de départ. Un infirmier anesthésiste est d'abord un infirmier qui se spécialise dans l'anesthésie-réanimation. C'est une spécialité du métier d'infirmier, et c'est une spécialité qui cache finalement une autre profession, puisque on se sert du métier d'infirmier pour aller instruire les gens en anesthésie-réanimation à un niveau qui ne ressemble plus tellement à la profession d'infirmier, qui est un petit peu différente et en même temps qui est compris dans le métier et dans les disciplines des sciences infirmières.
Alors vous pouvez le faire du coup dans plusieurs endroits de l'hôpital, dans plusieurs blocs.
Oui, alors vous pouvez retrouver des infirmiers anesthésistes au bloc opératoire.
Ouais.
C'est quand même le cœur du métier de l'activité, mais ce n'est pas la seule, puisque vous pouvez en retrouver dans les endroits qui vont accueillir du soin critique. On pense aux urgences, parfois à la réanimation. Vous pouvez en avoir aussi dans les services qui sont plus rares, de traitement de la douleur.
L'ergologie.
Et ça reflète les quatre compétences que défend la profession des infirmiers anesthésistes, que sont l'anesthésie-réanimation, la douleur, l'ergologie, et la prise en charge des urgences, notamment les urgences extra-hospitalières.
Mais il y a plusieurs choses à savoir en plus sur l'anesthésie, c'est assez vaste. Je crois d'ailleurs qu'il y a plusieurs manières aussi d'anesthésier. J'ai cru voir passer de l'anesthésie hypnotique.
Sous hypnose, oui, alors effectivement, ça c'est marrant parce que beaucoup de gens parlent de ça. C'est peut-être ce qui fascine un petit peu le public en ce moment, l'hypnose, l'anesthésie hypnotique. Est-ce qu'on peut faire de l'anesthésie et donc permettre une chirurgie sous hypnose ? Il y a des gens qui décrivent effectivement des process sous hypnose pure. Ça ne fait pas comme ça. Il faut une formation en plus de celle en anesthésie, et il faut une équipe vraiment, vraiment dédiée à ça. Ça peut se faire, il y a des gens qui le font très bien, et d'ailleurs il y a des super reportages sur des médecins anesthésistes qui le font à la PHP, qui est très très doux. Nous, en formation d'anesthésie au niveau initial, donc quand on est à l'école des infirmiers anesthésistes, on ne nous apprend pas ça. Par contre, on nous donne quand même des bases en hypnose pour pouvoir...
Ah oui, quand même.
Oui, quand même, pour avoir... En fait, ça nous aide à entrer en relation avec les autres. Quand on vous accueille, on a peu de temps finalement pour faire la connaissance de nos patients.
Ouais.
Et on a parfois besoin de quelques notions d'hypnose pour pouvoir les endormir dans le plus grand confort pour eux. J'ai quelques collègues qui ne sont pas du tout branchés à l'hypnose, j'en ai d'autres au contraire qui sont à fond dedans. Je pense qu'il faut juste le voir comme un outil à la disposition d'une équipe d'anesthésie, et on prend pas. Il y a des gens avec qui je vais pouvoir essayer d'en faire un petit peu, parce que je sens que ça leur fera du bien, aussi parce qu'on sait qu'un patient qui est moins stressé, donc on arrive à détendre, va consommer moins de médicaments. Donc va avoir un temps de réveil plus court, va avoir un temps d'hospitalisation au bloc et en salle de réveil plus court aussi, et donc c'est mieux pour lui. Après, est-ce qu'on fait de l'hypnose formelle ? Non. En tout cas pas là où j'exerce. Moi je suis pas assez formé pour le faire. Et il faudrait des consultations avant pour définir ce qu'on va faire durant cette séance d'hypnose en chirurgie.
Vous pourriez vous tourner plus concrètement vers cette notion-là à l'avenir, ou pas spécialement ?
Oui, mais ça ne va pas se faire tout seul. ça peut pas se faire tout seul, parce que vous avez besoin d'un certain calme, d'une certaine ambiance en salle. Et si vous avez des collègues qui rentrent au même moment, ouais, en rigolant, en
et
criant,
le ciseau,
voilà, exactement, ça va sûrement casser l'effet recherché. Donc ouais, je pense que s'il y a un projet d'établissement avec une équipe formée dédiée et où tout le monde est motivé à le faire, ça se fait et ça peut être super. Après, bon, en tant qu'anesthésiste, on est quand même là pour utiliser la pharmacopée à notre disposition, et c'est souvent comme ça qu'on fait. Mais ça n'empêche pas d'avoir une partie hypnose qui peut aller d'un point jusqu'à un certain point, ouais, et puis après ou pendant, utiliser en plus des médicaments.
Bon, là on est rentré vraiment, ouais, dans le pur et dur, hein, du métier d'infirmier anesthésiste. On va juste faire un bond dans le temps, oui, on va aller vers Sylvain Petit. Ouf. Est-ce qu'il voulait déjà être, peut-être pas infirmier anesthésiste à l'âge de 5 ans, 6 ans, mais au moins être dans le milieu hospitalier à ce moment-là, dans le milieu médical?
Pas du tout. Non, quand j'étais petit, moi je voulais être policier.
D'accord.
Parce que c'était l'époque de la prise d'otage de Nanterre avec Human Bomb, et on voyait les policiers du RAID intervenir, et c'est vrai que ça, c'est ce qui m'avait scotché ouais, à la télé petit, et je voulais faire ça, policier au RAID. Bon, eh ben, j'en suis assez loin, mais c'est vrai que plus tard, plus qu'on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie, sur au milieu de mon adolescence, là, j'ai commencé à réfléchir, et c'est là que je voulais entrer dans des professions. Bah, en fait, je l'ai fait un peu en éliminant, je voulais pas être dans un bureau, okay, je voulais faire quelque chose, une profession qui puisse me mettre au service des autres. Donc assez rapidement, je me suis tourné vers les études en santé. Et après, dedans, bon, bah, j'ai été faire un petit tour en médecine, voir comment ça faisait. C'était pas trop ma tasse de thé, donc je me suis orienté vers infirmier. J'avais un peu, par contre, c'est vrai que je voulais faire infirmier anesthésiste en rentrant à l'école d'infirmier. Ça, je le savais. Et beaucoup d'infirmiers anesthésistes savaient déjà qu'ils voulaient faire ça.
Parce que aussi, vos parents, votre entourage, faisaient partie de ce milieu-là?
Non, pas du tout.
Pas du tout non plus.
Non. C'est moi, à force de me renseigner sur les différents métiers que j'avais envie de faire, et je voyais ces reportages sur le SAMU notamment, je me disais mais c'est vachement bien ça, le SAMU, ça a l'air de bouger pas mal, au moins les mecs ils grimpent dans des hélicoptères, ils grimpent dans des ambulances, ils roulent à fond sur l'autoroute, ça doit bouger, ça doit être pas mal. Et puis ils ont des infirmiers, et surtout à l'époque ils avaient beaucoup d'infirmiers anesthésistes.
Est-ce que, quand on a 15-16 ans et qu'on veut se lancer dans ce milieu-là, est-ce qu'on a un petit peu peur, quand même, avec tous les stéréotypes qu'il peut y avoir autour du milieu médical et tout ce qu'on peut entendre, que ce soit en politique ou que ce soit même dans le débat public sur le milieu médical et sur les conditions aussi?
Je pense pas, parce que si on a 15-16 ans, qu'on cherche sa voie, je pense qu'on voit pas nécessairement les ombres du tableau. Par contre, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que j'ai beaucoup de collègues qui sont infirmiers ou infirmiers anesthésistes qui ne le conseilleraient pas forcément à leurs enfants.
Ouais.
Ça, c'est une réalité. Vous discutez avec une infirmière ou un infirmier, et c'est rare qu'il ou elle vous dise qu'il le conseillerait à ses enfants.
Fonce, c'est trop bien. Ouais.
Ouais. Non, ça, on n'entend pas.
Et peut-être que vous ne l'avez pas entendu parce que vos parents n'étaient pas issus de ce milieu-là, oui, et à l'inverse, bah peut-être qu'ils vous auraient ralenti sur l'idée.
Non, eux, ils étaient satisfaits, ils étaient contents de mes choix, ils m'ont soutenu tout le temps. Donc, après, forcément, en ayant un membre de la famille qui travaille à l'hôpital, vous en apprenez un peu plus sur l'envers du décor et oui, sur les conditions de l'hôpital. On sait tous, Français, pour en entendre parler dans l'actualité, que l'hôpital ne va pas bien. Et
on le sait en tant que Français, et on le sait encore plus en tant que Nivernais, d'ailleurs.
Voilà. Et il suffit d'avoir un proche à l'hôpital hospitalisé, vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu compliquées pour nous en ce moment, mais...
Bon, c'est un volet qui est prévu, ça, hein, les conditions de travail.
C'est vrai.
On va aller sur les études, oui, maintenant. Alors, comment ça se passe? J'ai jamais fait d'études là-dedans, moi j'y connais rien du tout. Déjà, vous avez fait vos études où, à Nevers?
Alors, je les ai fait à Lille.
D'accord. Ah,
à Lille,
très belle région.
Ma famille est originaire du Nord, et j'ai quitté Nevers pour mes études sur concours. À l'époque, d'accord, ça se faisait comme ça. Puis j'ai décidé de remonter un petit peu dans le Nord, et Lille est une superbe ville.
Très étudiante
super
aussi.
Super ville étudiante, effectivement. Et avec un hôpital assez réputé et une école de formation qui l'est également. Donc à l'époque, ça se faisait sur concours. Concours d'entrée en école d'infirmiers classique. Maintenant, on est dans un système LMD donc, qui s'universitarise.
Oui.
On va son temps vers l'université. Maintenant, ça se fait sur inscription.
L'accès est plus simple ?
Supposément, puisque ça se fait sur la plateforme Postbac. Moi, je ne la connais pas, je n'ai jamais connu. Par contre, de ce qu'on me raconte ou me racontent les étudiants que je croise sur le terrain, c'est quand même pas forcément plus simple qu'avant. Ouais. Avant, on déposait son dossier dans une école qu'on voulait faire. Il y avait une sélection qui était un concours assez classique, juste pour faire un petit écrémage. Et puis, ça permettait d'aller surtout sur un entretien oral qui permettait de voir un petit peu le profil du candidat et d'étudier ses motivations à rentrer en école. Maintenant, l'accès est sûrement plus simple, mais on entend souvent des jeunes qui nous disent « Moi, je voulais faire infirmier et j'ai pas été retenu alors que j'ai des très bonnes notes.
Ouais. »
Et au contraire, des gens qui nous disent « Moi, infirmier, c'était genre un 5e, 6e vœu, je sais pas, mais c'était loin dans la liste des vœux. »
Et finalement, j'étais
pris là. Et vu l'engagement que ça demande comme étude, ils sont pas toujours très satisfaits et je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'optimiser un petit peu tout. Nous, on a besoin d'étudiants infirmiers qui soient motivés et surtout qui puissent vouloir exercer ce métier-là. Mmh. Sinon, c'est compliqué de faire ces 3 ans d'études qui sont quand même assez exigeantes si on n'a pas la motivation de devenir infirmier.
Oui, ça demande un engagement particulier et une motivation aussi.
C'est la moitié de vos études d'infirmier vont se passer à l'hôpital. Même si finalement il y a moins de terrain de stage qu'avant, j'ai l'impression, sur l'hôpital, on envoie les étudiants infirmiers la moitié du temps à l'école.
Il y a beaucoup plus de théorie que de pratique maintenant ?
Non. Il y a toujours, sur le référentiel qui est toujours d'actualité, celui que j'ai fait qui est toujours en cours, qui devrait d'ailleurs sûrement être réformé dans les années à venir, on a 50% de temps à l'école qui nous apporte de la théorie, 50% de temps sur le stage, qu'il soit à l'hôpital, mais aussi dans tous les autres secteurs où on exerce de la santé, que ce soit des lieux de vie, du domicile. Un petit peu varié. L'idée, c'est d'emmener en compagnonnage notre étudiant infirmier et de lui montrer toutes les activités de l'infirmier possibles. Moi, j'ai exercé dans des services de soins critiques, j'ai exercé dans des services ambulatoires, aux urgences, mais aussi en médecine du travail.
Ouais.
C'est vraiment très très large, le métier infirmier. C'est ça qui est un petit peu la force, je trouve, de cette profession. C'est que vous pouvez l'exercer un peu comme vous voulez et dans des endroits, des fois, très très improbable, puisque par exemple au FMI il y a des infirmiers.
D'accord.
J'avais vu passer une annonce pour un poste infirmier au FMI. Alors, il fallait un sacré profil d'ailleurs.
Ouais.
Mais vous en avez aussi des infirmiers sur des médicalisations de sites pétroliers.
Oui.
Donc au milieu sur les plateformes pétrolières au milieu de la mer Baltique, vous en avez.
Ouais, ça peut être aussi une possibilité de voyage impressionnante.
Vous en avez dans l'armée, dans les forces armées évidemment. Infirmiers militaires ou en contrat avec l'armée par exemple, donc ça vraiment un panel très très large de capacités, de soins, donc vous en avez partout, ça c'est une force. Donc il faut être infirmier déjà pour faire infirmier anesthésiste, donc c'est un parcours qui aujourd'hui prend 3 ans d'études, vous avez un stage par semestre, donc vous avez un tout petit bagage finalement de soins et vous sortez infirmier diplômé d'état à un niveau novice. Ensuite, pour devenir infirmier anesthésiste, il va falloir rouler un petit peu sa bosse.
C'est vraiment écrit niveau novice ?
Oui, c'est ce qu'on nous dit à l'école, oui.
Ah oui, vous n'avez pas... Oui, d'accord, ok.
C'est niveau novice, on ne l'écrirait pas comme ça, mais vous allez l'avoir parce que si vous êtes dans la fonction publique, ouais, vous allez commencer échelon 1. Si vous êtes dans le privé, vous n'aurez pas ça, mais vous allez sortir infirmier diplômé avec toutes les capacités de pouvoir exercer cette profession. Quand vous commencez votre profession, évidemment, vous n'êtes pas un expert tout de suite. Mmh. Mais c'est valable pour n'importe quelle profession.
Mais bien sûr.
Donc, on a besoin que vous fassiez cette petite temps de profession d'infirmier. Parce que l'infirmier anesthésiste se développe à partir d'un infirmier. Donc, il nous faut un infirmier qui, bien sûr, fait son cursus, mais qui ait aussi un petit peu d'expérience. Et actuellement, la loi le cadre, ça. On a besoin de 2 ans d'expérience. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont en formation d'infirmier anesthésiste ont plus... voire bien plus que 2 ans d'expérience. C'est vraiment très variable, puisque en plus de l'expérience professionnelle qu'on va accumuler, il y a tout la réorganisation de nos vies personnelles qui va être prise en compte pour accéder à ces études. Parce que 2 ans après vos études d'infirmier, généralement, vous êtes actif. Vous avez une maison, parfois vous avez des enfants. Donc des fois, vous le faites tout de suite parce que vous êtes tout seul, par exemple, ce qui était mon cas. Des fois, vous le faites plus tardivement parce que dans votre vie...
Oui, après ça, c'est la vie personnelle
qui... Mais c'est pas évident, parce qu'après, vous repartez pour 2 ans d'études. Donc il va falloir vous trouver une école d'infirmiers anesthésistes. Il n'y en a pas partout. Mm. On peut dire qu'il y en a 27 ou 28 en France et dans les DOM-TOM. Il faut sélectionner votre école, il faudra repasser un concours, refaire une série de sélections, ouais. Et ensuite être pris pour 2 ans où il faut réorganiser sa vie perso. Donc c'est pas toujours évident, il y a des dispositifs pour nous aider, on peut demander à rentrer à l'école 1 an après pour pouvoir, ouais. pouvoir s'organiser pendant 1 an maintenant qu'on sait que c'est sûr qu'on rentre.
Et parce que financièrement, il faut pouvoir suivre aussi. Ouais.
C'est ça. Mmh. Alors, il y a des aides qui sont mises en place dans les régions. Ça dépend vraiment. C'est très propre à chaque région. Il y a des régions qui financent énormément ces formations-là. Et donc, c'est, le reste à charge pour l'étudiant sera beaucoup moindre. Ouais. Il y a des régions où ce n'est pas le cas. Et donc, ça fait très, très cher pour mmh. l'étudiant. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui essaient de passer en formation professionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont déjà infirmiers dans un établissement. Et ils font connaître à leur établissement leur volonté de passer infirmier anesthésiste. Et donc te spécialiser dans cette branche-là. Et puisque généralement chaque hôpital a besoin d'infirmiers anesthésistes aussi, généralement il y a aussi une sélection et une partie de ces gens-là pour qui tout est payé. Mmh. Frais d'hébergement, frais de route, frais d'études, généralement c'est pris en charge. Alors en fonction des centres, des fois on travaille tous pour l'État, mais il y a quand même des disparités en fonction de chaque hôpital où les hôpitaux remboursent un peu plus ou un peu moins. Ça, il faudra se renseigner. Vraiment sur le local si vous voulez vous faire financer. Et oui. Le financement, puisque c'est de l'argent public qu'on vous offre, on vous demande derrière de rendre un certain nombre d'années oui. à l'État. Voilà. Vous avez un engagement à servir qui est de 3 ans par année financé dans la limite des 5 ans. Donc une fois que vous êtes infirmier anesthésiste, si on vous a payé vos études, vous rendez 5 ans de service à la fonction publique hospitalière.
C'est votre cas ?
Moi j'ai fait un peu moitié-moitié.
D'accord.
Puisque je me suis lancé en autofinancement, donc je me débrouillais okay. tout seul.
Ouais.
Et au milieu de mes études, je me suis fait racheter, comme on dit, c'est un petit peu comme le mercato.
Comme à la banque, on vous rachète.
C'est ça. Donc j'ai signé un contrat avec un hôpital au milieu de mes études. Et du coup, j'ai eu un engagement de servir de 3 ans.
D'accord.
Au lieu de 5.
C'est l'hôpital de Nevers, non ?
Exactement.
Okay. D'accord.
Puisqu'on m'a financé une année d'études.
D'accord. Donc là, vous êtes à votre 2e année à Nevers ? 3e ?
J'ai commencé, j'ai été diplômé fin 2021, et j'ai commencé dans la foulée à Nevers, donc bientôt 3...
Vous êtes en train de rembourser votre dernière année ?
Ouais.
Vous ouais. allez rester à Nevers après ou vous allez retourner
Pour l'instant, c'est prévu. Non, non, non. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de bouger, mais on ne sait pas de quoi demain est fait.
Ouais.
Mais non, non, pour l'instant, aujourd'hui, je suis très bien à Nevers, donc pas... Attention de bouger.
Oui, il y a quelque chose que vous gardez, ça c'est évident, c'est votre engagement. On va venir dessus parce oui. que pendant vos études, mmh. vous allez devenir vice-président de l'Association nationale des étudiants infirmiers anesthésistes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est cette association ? Et ensuite, comment c'est venu cet engagement ?
Alors, ça c'est un moment très très particulier puisque j'ai eu la chance de faire mes études d'infirmier anesthésiste au beau milieu d'une crise sanitaire mondiale.
Oui, qu'était le Covid.
Donc ça nous est tous tombé sur le coin du nez sans prévenir, puisqu'on a, nous, on était en formation à partir de octobre 2019, mm. et quelques mois après, donc au mois de février-mars, bam, Covid.
Quand on part en études pour mm-hmm. se lancer dans cette profession, qu'on voit l'enfer qu'a été le Covid dans les hôpitaux,
oui.
est-ce que vous dites pas, mais dans quoi je me suis lancé, mais quel enfer ?
Non. Non, non, alors ça, je ne me suis pas dit ça.
Parce que manque de matériel, c'est à ce moment-là qu'on s'en est rendu compte. Manque de personnel, c'est à ce moment-là qu'on s'en est rendu compte.
Ah non, il faut remettre un petit peu dans le contexte. Ça fait à peu près 20 ans que tous les professionnels de santé disent qu'ils n'ont plus les moyens, tant matériel qu'humain. Alors, il y a des fois, si vous avez beaucoup de moyens matériels, mais si vous n'avez personne pour vous en servir, ça ne vous sert à rien. La situation des hôpitaux aujourd'hui, elle n'est pas liée au Covid. Elle était déjà problématique avant. Avant le Covid, vous aviez 90-95% des urgences de France en grève.
Mmh.
Donc, ce n'est pas lié au Covid. Et après, une fois qu'on est dedans et que c'est donc la crise du Covid, il y a un certain nombre de choses qui ont concerné les infirmiers anesthésistes et leurs étudiants, donc les étudiants infirmiers anesthésistes. Et je pense pas que personne ait eu ce regard de se dire mais qu'est-ce que je fous là ? Non, 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 puisque on est formé à ça, donc on était dedans. C'est juste qu'il y a eu un décalage entre la réalité du terrain et les besoins de santé à ce moment-là. et nous, nos missions. Et quand on était étudiant, enfin, moi, à ma promo, on s'est beaucoup dit, mais attendez, nous, on est là pour apprendre de l'anesthésie.
Ouais.
On n'est pas là pour aller faire de la réanimation. Et on en a fait quand même.
Parce que cas de force majeure.
Cas de force majeure, réquisition, purement et simplement, hein, puisque c'est arrivé plusieurs fois, dans au cas de cette crise, qu'on nous arrête nos études et on nous dit, les gars, vous allez aller en réanimation.
Mm.
Alors ça, c'était vraiment en région dépendante, en fonction de leurs besoins aussi. Il y a des gens qui ont été plus sollicités que d'autres.
Ouais. C'est une région très touchée, Lille.
Alors moi, j'étais à Amiens à ce moment-là.
Ah oui, d'accord.
Donc j'étais, j'ai fait mes études d'infirmier à Lille. J'ai exercé ma profession d'infirmier à Lille et j'étais parti en Picardie pour faire mes études d'infirmier anesthésiste.
D'accord, ok.
C'était une région qui était moyennement touchée, mais quand même, hein, toutes les réanimations étaient pleines. Faut comprendre aussi que la réanimation est un service qui, par définition, n'est pas forcément très grand. Puisqu'il y a besoin de beaucoup de soins, il n'y a pas forcément beaucoup de place. Par contre, ça c'est vrai que vous parliez de réalisation, là, par exemple de manque de moyens, etc. On a réalisé que par rapport à la population de la France, on n'avait pas forcément beaucoup de lits pour tout le monde. Voilà. Après, en même temps, c'est normal, parce qu'au quotidien, vous n'avez pas beaucoup de monde qui a besoin de lits réanimation. Oui. La réanimation, ce n'est pas non plus un service où on reste très longtemps. Soit parce qu'on va mieux, et donc on retourne dans un service de soins général, soit ça s'aggrave, et généralement, quand on s'aggrave en réanimation, l'étape d'après, c'est le décès. Donc, pour revenir aux études, pendant cette période, je suis étudiant infirmier anesthésiste, et on se rend compte, on nous demande d'aller faire des missions en réanimation en tant qu'infirmier, parce qu'on est déjà infirmier. Ensuite, une grande partie de la population des infirmiers, des étudiants infirmiers anesthésistes, est déjà formé à l'AREA, puisque les services de réanimation sont quand même grandement pourvoyeurs d'étudiants, qui est un peu le public qui est concerné par les études d'infirmiers et anesthésistes. Sur le papier, tout le monde.
Ouais.
Dans les statistiques qui sont faites, il y a quand même beaucoup de 3 services qui fournissent des étudiants à cette spécialité-là, la réanimation, les urgences et le bloc. Donc il y a une bonne partie d'étudiants qui est formée à l'AREA. Ou qui connaît l'AREA, et de toute façon, pour les autres, l'école leur a donné des bases, voire très très bonnes formations sur la réanimation, sur la ventilation longue durée, etc. Puis, de toute façon, le Covid, c'est un peu nouveau pour tout le monde, donc il y a plein d'études qui sortent tout le temps, on vous briefe un petit peu quand vous arrivez dans les services, sur comment on fait, première vague, deuxième vague, troisième vague, on ne soigne pas pareil.
Ouais.
De toute façon, c'est une adaptation constante, ça, les infirmiers savent s'adapter tout le temps. Et d'autant plus les infirmiers anesthésistes. Là où moi, ça m'a un petit peu révolté, c'est que les éléments de langage employés par le gouvernement à ce moment-là, c'était pas du renfort, c'était vivier. Les étudiants infirmiers anesthésistes étaient considérés comme un vivier pour aller renforcer les équipes sur place. Et ça, c'était pas entendable. La situation l'imposait peut-être, quand on est dans les plus hautes fonctions de l'État, mais ça a été fait avec une certaine forme de violence, de mépris, qui n'était pas entendable, et qui a été, moi, je n'oublie pas, par exemple. Bon, après, il y en a qui l'ont très bien vécu, il y en a qui l'ont très très mal vécu. Moi, c'est fait, c'est acté, je continue ma vie, tout va bien. Mais
c'est ceux qui l'ont mal vécu, c'est ceux qui ont carrément quitté la fonction.
Il y en a eu. Ce sont déjà 2 ans d'études qui ne sont pas faciles, parce que là où vous êtes professionnel, et parfois même professionnel expert dans votre compétence, dans votre service, vous remettez un peu tout à plat pour devenir étudiant. Donc ça veut dire que si vous avez une vie de famille, vous êtes moins disponible pour votre famille, il faut aussi bosser vos cours, un mémoire, parfois un diplôme interuniversitaire en plus. C'est du temps, vous êtes très 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 chargé. C'est 2 ans de formation au niveau master, l'infirmier anesthésiste, après un concours, et ces 2 ans de formation sont assez denses. C'est pas forcément ce que vous retrouvez en master sur une université classique. Là, vous avez vraiment un temps de formation condensé, où il y aura beaucoup de stages. Parfois, les stages sont dans des temporalités définies, c'est-à-dire que vous êtes à l'école, puis vous êtes en stage, puis vous revenez à l'école. Des fois, c'est un peu tout au long, puisque chaque école d'infirmier anesthésiste forme un petit peu comme ils le veulent. Le seul impératif, c'est qu'à la fin de votre formation, vous ayez eu autant d'heures de cours, autant d'heures de stage. Donc tout le monde aura la même à la fin. Tout le monde aura le même diplôme, exercera la même fonction. Mais il y a des écoles, par exemple c'était mon cas, où vous étiez envoyé en stage pour un mois, puis vous venez à l'école un mois. Il y a d'autres écoles où vous êtes en stage, par exemple 3 jours dans la semaine, et les 2 autres jours, vous êtes en cours. Donc c'est déjà très exigeant. ça met une petite pression sur sa vie perso. Et dans un contexte de crise sanitaire, où vous êtes coincé dans la région que vous avez choisie, pas forcément celle de vos proches, vous ne pouvez pas changer de région.
Oui, il y a une certaine solitude qui s'installe.
Vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Par exemple, moi, j'avais fait le choix d'un appartement de 40 mètres carrés sans extérieur. Pas évident de rester bloqué.
Ouais.
Mais bon, j'avais le laissé passer pour aller bosser quand même.
Donc, oui, vous aviez le petit plus que les autres n'ont pas, mais bon, c'est pour aller bosser. Donc,
pour aller bosser.
Ouais.
Mais après, voilà, ce qui était révoltant, c'était ce côté vivier, sans forcément grande reconnaissance, le côté on se sert dans la ressource disponible. Alors ça, on peut l'entendre, hein, sur un point de vue stratégique, mais quand c'est nous, vous, la ressource disponible, et que vous vous sentez pris comme ça, pas évident. Puis il y a un côté culpabilisation, parce que vous étiez dans vos mémoires, dans votre étude d'infirmier anesthésiste, et on vous dit, oui, mais attendez, là c'est la crise, c'est la guerre, il y a du monde en réanimation.
Et puis ça rend un petit peu votre avenir flou aussi, vous ne savez pas trop ce qui va se passer.
Parce qu'à ce moment-là, vous ne savez pas si vous allez reprendre ou pas.
Oui.
Et on vous dit clairement que si on arrête votre formation trop longtemps, vous recommencez. Donc c'est des crédits pour certains qui ont choisi de se financer par crédit qu'ils n'ont pas remboursé, c'est dire à sa famille que ben, là où vous étiez parti pour 2 ans, ce sera peut-être 3.
Dans le petit coup, on vous auriez dit il faut tout recommencer, qu'est-ce que vous auriez fait?
Moi, je pense que oui, j'aurais tout recommencé.
Ah ouais?
Oui. J'étais déjà trop investi et surtout ça me plaisait énormément. C'était une grande révélation. Là où je commençais un petit peu à patauger dans mon métier infirmier, infirmier anesthésiste, c'était vraiment ça, ma voie. Donc voilà, c'est tout ce que je vous raconte là-dessus, sur ces crises du Covid, qui a poussé certains étudiants, et c'est une initiative d'étudiants infirmiers anesthésistes lyonnais, à remonter l'Association nationale des étudiants infirmiers anesthésistes. Désolé pour les noms complets, mais ils sont parfois plus digestes qu'une acronyme. Donc la NIA a été une asso qui existait déjà, qui était une initiative lilloise, il me semblait, et qui avait été un petit peu mise en
stand-by,
parce que ben, forcément, ces assos étudiantes, vous avez 2 ans d'études dans cette spécialité.
Derrière, il faut une relève, etc.
Il faut relayer avec d'autres étudiants, mais qui ne se connaissent pas tous. Bon, là, le Covid et les cas de force majeure nous a tous poussés à communiquer les uns avec les autres. Donc vous aviez des groupes de discussion avec les étudiants de Paris, on avait tous des délégués de promotion qui faisaient un peu la passerelle, parce que ça nous est du bien aussi, je pense, de voir dans les autres villes comment ça se passait. Donc voilà, c'est pour ça, et puis vu que moi j'étais un petit peu parmi les révoltés, je me suis engagé sur cette voie-là, comme ça m'a plu, et j'ai continué sur le syndicat national des infirmiers anesthésistes.
Tout de suite, on va faire une petite pause musicale et puis on va revenir juste après parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. C'est vous qui avez choisi cette pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Puisqu'on me propose, je vous propose d'écouter le morceau Noah du groupe Birds in Row,
et
qui vient de Laval, c'est français.
Et on revient juste après.
Come with me. We'll lose our resentment smile when we take down.
on va aller sur une journée type d'un infirmier anesthésiste. Comment ça se passe ?
Ah, ça c'est une très bonne question et c'est très dur de répondre s'il n'y a pas de journée type. Ça dépend vraiment de votre, du lieu où vous exercez.
Déjà, les horaires sont jamais les mêmes.
Ouais, mon cas personnel, je travaille sur 6 horaires différents.
D'accord.
Alors ça paraît beaucoup, mais en fait ça varie peu. Je travaille sur une journée classique, donc l'hôpital c'est 8 heures. Je compte pas les temps de pause parce que je suis pas un expert là-dedans et puis ça m'intéresse pas. Soit je travaille sur du 8 heures, soit je travaille sur 12 heures. Du jour ou de la nuit.
Ou de la nuit.
Ouais. La nuit sera spécifiquement 12 heures tout le temps. Il y a des infirmiers qui peuvent travailler sur 24 heures, c'est un peu plus rare. Mais généralement c'est 12 heures ou 10 heures ou 8 heures de travail. Le bloc opératoire qui est mon activité professionnelle, c'est souvent en journée. Donc moi je commence le matin à 8 heures. Donc classique de chez classique. Soit je finis à 16h, soit je finis à 20h, en fonction de mon activité.
Et qu'est-ce qui va changer une journée où vous êtes de jour et une journée où vous êtes de nuit ?
Tout change. Parce que
vous n'êtes pas au bloc de nuit ?
Si. On opère aussi la nuit, hein. Surtout quand vous êtes dans la fonction publique, où vous recevez des fois des urgences chirurgicales, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ce qui change, la nuit souvent vous êtes tout seul, donc il faut vous débrouiller. Tout seul.
L'ambiance est différente.
Il y a moins de professionnels, donc c'est aussi une ambiance qui est plus apaisée ou plus intimiste. Vous allez pouvoir vous organiser avec votre équipe de façon un petit peu plus confidentielle. La journée, c'est un petit peu tout venant. Alors, l'activité de bloc opératoire, on travaille tous les jours au bloc, mais on ne fait pas tous les jours la même chose. Dans les grands hôpitaux que sont les CHU, ça n'est pas rare que vous soyez posté sur une activité. Par exemple, si vous êtes infirmier anesthésiste en orthopédie, vous allez faire de l'orthopédie tout le temps. Mais par exemple, moi qui suis un plateau polyvalent, je travaille quasiment tous les jours sur une spécialité différente. On peut aussi travailler en pré-anesthésie, donc c'est la zone tampon qui accueille les malades, qui les conditionne pour le bloc. Vous pouvez aussi parfois travailler en salle de réveil. Donc c'est une spécialité qui englobe toute la sphère péri-opératoire.
Oui, donc il y a le avant, le pendant et le après.
Et vous avez des infirmiers anesthésistes partout.
C'est quoi le plus dur dans votre métier ?
Ah, ça c'est une bonne question aussi. Pour moi, il n'y a pas de plus dur parce que...
Il y a peut-être des choses qui sont plus compliquées à gérer que d'autres.
En fait, au début, c'est difficile. Mais vu que c'est une formation qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, vous allez apprendre à être confortable dans l'inconfort.
Ouais.
Donc le plus dur, c'est de s'adapter constamment aux autres, mais c'est aussi le plus facile, puisque vous êtes bien formé pour le faire. Quand vous sortez de la formation d'infirmier anesthésiste, vous êtes mieux formé pour vos futures fonctions que quand vous sortez de l'école d'infirmier. Et c'est normal, parce que l'école d'infirmier vous forme pour, en tout cas c'est le modèle actuel, pour devenir infirmier polyvalent. Vous pouvez être infirmier partout, sur le papier. Nous, l'école d'infirmier anesthésiste vous forme à être infirmier anesthésiste. Donc vous avez des cours qui sont plus centrés sur cette pratique, une formation qui est bien plus aboutie et profonde que la formation d'infirmier classique. Donc vous êtes très très bien armé pour faire vos futures fonctions. Donc franchement, il n'y a pas tellement de difficultés dans le métier. Après, ça dépend, il y a des chirurgies qui sont plus complexes que d'autres, mais ça, généralement, on s'en sort tous bien.
Et chaque anesthésie est différente aussi, en fonction du patient en face, en fonction de sa manière, entre guillemets, de s'endormir.
Oui,
il y a peut-être le dialogue aussi qui compte beaucoup à ce moment-là.
Moi, je dirais que oui, parce que je pense, mais c'est une conviction personnelle, on va plus ou moins tous faire la même anesthésie. Alors, c'est très très personnel l'anesthésie, hein, ça dépend de votre patient et de la chirurgie.
Ça arrive qu'il y en a qui ne s'endorment pas ?
Non.
Je dormirai pas.
On gagne toujours.
Ouais.
Non, ça n'arrive pas, mais vous allez choisir une stratégie. En fait, vous pouvez arriver... Le but, c'est quoi ? C'est qu'on puisse permettre une chirurgie. En tout cas, quand on travaille au bloc opératoire.
Et pour le patient, c'est aussi de rester le moins possible longtemps à l'hôpital.
Généralement, parce que le temps, c'est de l'argent, c'est des ressources, et on n'en a plus. Donc, il faut réadapter notre patient le plus rapidement possible. Mais on prend aussi en compte sa volonté. Il y a des gens qui ne supporteraient pas de ne pas être endormis pour se faire opérer. À ce moment-là, il faut peut-être parfois mieux les endormir que de forcer une anesthésie loco-régionale et de gérer une crise de panique au bloc. Ça dépend de beaucoup de choses, et donc ça dépend de la chirurgie, puisque notre mission c'est de permettre la chirurgie quand on travaille au bloc, et ça dépend du patient. En fonction de l'état de santé de votre patient et de la chirurgie, vous allez définir une ou plusieurs stratégies d'anesthésie. Des fois c'est combiné. On peut largement vous faire une anesthésie loco-régionale, puis une anesthésie générale, qui auront des bénéfices respectifs et qui va vous permettre une très bonne prise en charge. Des fois, la meilleure prise en charge, ça consiste à ne pas vous endormir, parce que c'est là où vous aurez le moins de risques.
Et donc c'est là où il faut vraiment l'expliquer au patient, il faut lui faire comprendre que c'est ce qu'il faut pour lui.
Donc vous avez deux professionnels de l'anesthésie et réanimation en France, c'est le médecin anesthésiste et l'infirmier anesthésiste. Vous avez une consultation avant avec un médecin qui va vous expliquer ce qu'il propose et qui va vous, normalement, le médecin anesthésiste va vous donner les clés pour vous choisir. On utilise cette consultation-là comme point de départ de la prise en charge de l'anesthésie. Et en fonction de cette consultation, puisqu'on voit au jour J de la prise en charge, on choisit.
Bon, on va aller maintenant sur les conditions de travail, les conditions aussi du personnel. On parlait tout à l'heure de votre engagement en tant qu'étudiant. En 2021, vous disiez ça sur France Info.
La profession tout entière des infirmiers anesthésistes n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite, que ce soit salariale ou législative. Nous, aujourd'hui, on veut juste faire coïncider la réalité qu'est notre métier avec les textes de loi.
C'était à l'occasion de la mobilisation des infirmiers anesthésistes dans toute la France. Est-ce que la reconnaissance de la profession, elle a évolué depuis en 3 ans?
Non. Non, je pense pas.
C'est un échec.
Alors, je citerai notre président, je ne dirais pas que c'est un échec, simplement que ça n'a pas fonctionné.
Belle parole de politique.
Par définition, la profession d'infirmier anesthésiste, elle est un petit peu dans l'ombre. Puisque c'est pas une profession qui va vraiment s'identifier. Vous allez voir un infirmier anesthésiste au bloc, vous allez le voir 10 minutes, un quart d'heure avant de vous endormir.
Ouais.
Il va vous endormir, vous surveiller, vous réanimer péropératoire, enfin, pendant les périodes du bloc, et ensuite il va vous réveiller en salle de réveil. Parfois vous en avez même plus conscience. Et parfois vous en souvenez même pas. Donc forcément, c'est une profession qui va être un petit peu dans l'ombre. Quand elle travaille dans les blocs, le bloc est un environnement restreint, vous ne pouvez pas y accéder comme ça. Donc ce qui se passe au bloc, en fait, on ne sait pas vraiment. Quand on est dans la population civile, c'est derrière des portes fermées, à moins d'y se rentrer soi-même comme patient ou comme professionnel, on ne verra pas ce qui s'y passe. Vous avez des infirmiers anesthésistes dans plein d'autres fonctions, vous pouvez les retrouver dans les SMUR, vous pouvez les retrouver des fois dans les équipes des pompiers, mais c'est des temps où il y a du stress, il y a des temps où il y a une intervention qui se passe très rapidement, donc bon, on n'a pas forcément pignon sur rue. Il y a eu un gros coup de projecteur quand même sur la profession d'infirmier et des infirmiers anesthésistes pendant la crise du Covid, mais l'accent a vraiment, et bon c'est un petit peu normal, a été mis sur les infirmiers qui exercent en réanimation, et on a un peu eu tendance à oublier les infirmiers anesthésistes, et d'une façon générale, j'ai l'impression
les infirmiers
que,
dans
la stratégie politique, on parle d'infirmiers, puis on parle d'infirmiers spécialisés. Les infirmiers spécialisés, il y a les infirmiers puéricultrices, qui s'occupent des enfants,
et
vous avez les infirmiers de bloc opératoire, vous avez les infirmiers anesthésistes, c'est 3 spécialités, et pour l'instant la DGOS ne veut pas en faire plus, c'est pas le projet, et ces 3 spécialités sont très 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 différentes. On n'a pas les mêmes études, on n'a pas les mêmes accès à nos études, on n'a pas le même temps d'études ni la même mission, et donc nous on vit parfois assez mal d'être chapeauté sous ce titre infirmier spécialisé. Et c'est un petit peu la volonté politique actuelle de nous emmener vers, quelle que soit votre spécialité, vous serez traité pareil. Sauf qu'on n'a pas les mêmes responsabilités, on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes études, et je ne classe pas l'une au-dessus de l'autre.
C'est pas une question de mérite, c'est une question vraiment de reconnaissance pure et dure.
C'est
ce que vous réclamez.
Bien sûr, je pense que chacun, on veut tous plus ou moins la même chose. Quand on exerce un métier qu'on aime, c'est être reconnu pour ce qu'on fait. Cette reconnaissance, elle passe par un statut, elle passe par une revalorisation salariale. Si vous êtes bien rémunéré pour l'activité que vous faites, ça vous donne envie de la continuer. La crise de Covid a entraîné pas mal de revalorisations pour les infirmiers. Une grande partie de ces revalorisations n'a pas concerné leur spécialité. On a augmenté le niveau de revenu des infirmiers, mais on n'a pas en réponse augmenté le niveau de revenu en proportion des cadres, des spécialités infirmières. Là où ça devient problématique, c'est que vous allez donner envie aux gens de faire ces spécialités-là aussi parce que vous allez avoir des missions spécifiques et aussi parce que vous allez parfois avoir un niveau de revenu un petit peu plus haut. Et c'est normal. Vous faites 2 ans d'études, supplémentaire après un an de concours, on va dire, puis un mémoire, un master, un deuxième diplôme d'état. Moi, mon école nous a proposé un diplôme universitaire en plus sur la gestion de la douleur. Donc vous faites tout ça, parfois pour gagner pareil. Moi, par exemple, ce qui s'est passé, les premiers temps où je suis devenu infirmier anesthésiste, j'ai gagné 13 euros brut en plus. C'est pas motivant. Et on commence à voir un peu une baisse d'attractivité de la filière.
Les syndicats, ils alarment là-dessus, sur les plus hautes fonctions, le gouvernement, etc. Oui. Ils projettent aussi des actions. On parle en ce moment d'énormément de préavis de grève à l'arrivée des JO. Est-ce que c'est quelque chose que peut envisager les syndicats ?
Non, parce que notre syndicat national pour les infirmiers anesthésistes ne dépose pas de préavis de grève. Lorsque la profession veut une grève, on repasse par les syndicats classiques.
D'accord.
Qui, eux, vont pouvoir déposer une grève. Nous, ça ne nous intéresse pas dans le premier temps. S'il faut aller à la grève, on y va. Mais je n'ai pas cette vision d'un syndicaliste qui veut faire grève pour tout et pour rien. Moi, je suis professionnel avant tout. Je suis sur le terrain tous les jours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la défense de ma profession. Donc, parfois, ça veut dire aller à certaines réunions. Souvent, ça veut dire écouter nos collègues et essayer de résoudre leurs problématiques. Ça, c'est une activité énorme au sein du SNIA. C'est parfois aller dans les salons, dans les zones pour aller s'exposer, pour rencontrer nos futurs collègues, parce qu'on recrute. Et parfois, pour aller justement discuter avec les autres. Et ça, c'est très important de le faire, discuter avec les autres infirmiers, avec les instances infirmières, l'ordre infirmier, les différents comités nationaux professionnels. Bon, après, voilà, ça va être travail de diplomatie, on va dire. Et c'est ça qu'on fait.
On a parlé de l'état des hôpitaux, du milieu médical en France. On est obligé de parler un petit peu aussi de celui de la Nièvre, parce que les gens qui nous écoutent, je pense que ils se demandent pourquoi on n'en a pas encore parlé. Quel est votre regard, vous, sur ce qu'on peut entendre, sur ce qu'on peut voir, sur ce qu'on peut lire sur l'état de santé dans la Nièvre, et notamment, ce qui fait le plus parler, c'est l'hôpital de Nevers?
Alors, la meilleure réponse à vous donner, c'est de botter en touche, puisque en tant que fonctionnaire, on ne peut pas librement s'exprimer sur l'hôpital dans lequel on travaille.
Vous avez un droit de réserve.
Ouais, et puis pas envie d'avoir des problèmes demain ou après-demain.
Ouais, ça donne une idée de ce que vous pensez alors.
Non, pas forcément, parce que bon, c'est toujours pareil. Ne pas donner une réponse, c'est donner une réponse. Bon. Ce qu'on peut en dire, les difficultés locales ne sont pas différentes des autres difficultés. L'hôpital de Nevers va pas bien, c'est une certitude, mais les autres hôpitaux non plus. Et en fait, d'une façon générale, tous les hôpitaux de France. Quand on alerte les plus hauts niveaux de l'État en disant qu'il y a une fuite de soignants, la réponse est non, c'est pas vrai.
Ouais. En fait, le problème, il vient de plus haut. Il faut
C'est pour ça qu'en fait, ce qui est frustrant chez nous, c'est que nos problématiques, elles sont pilotées par les politiques.
Ouais.
C'est pour ça aussi que je me suis engagé dans la défense de ma profession. C'est que de toute façon, si on veut les résoudre, va falloir passer à un moment ou à un autre par la volonté politique. Et là, la volonté politique, il y a un discours qui dit oui, on veut sauver l'hôpital, comme l'école.
Oui, bien sûr, oui, mais tout à fait.
Et des faits.
C'est vrai que ça serait faire d'ailleurs.
Ouais. Bon, pour moi, c'est les deux.
Le combat elle-même, oui, bien sûr.
Deux secteurs qui ne vont pas bien et pour lesquels il y a une volonté apparente de vouloir aider, et derrière, les actions sont plutôt destructrices.
Ouais.
Quand j'ai commencé, on nous disait, on s'excusait de pouvoir moins bien nous encadrer en tant qu'étudiants parce qu'on était les services étaient en effectif réduit. Aujourd'hui, les effectifs réduits d'hier sont les effectifs temps plein de maintenant. Mais ça veut dire que vous avez plus les effectifs pour pallier un arrêt maladie. Vous savez bien qu'un arrêt maladie, ça se planifie pas toujours. Des fois, vous vous levez le matin, vous êtes malade, ou alors vous avez un enfant malade, vous
n'avez pas sur une semaine de garde.
Non,
c'est évident.
Donc voilà, face à ces difficultés-là quotidiennes, l'hôpital n'a plus du tout de moyens de répondre. On s'en sort un petit peu. Des fois, ben ça, aussi, on a parfois l'obligation de prendre du personnel en intérim.
Là, par exemple.
Ouais.
Enfin, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais concrètement, le nombre de personnel qu'il manque à Nevers, à l'hôpital de Nevers, il pourrait s'évaluer à combien en nombre ou en pourcentage ?
Je crois que ces chiffres-là ont été publiés.
D'accord.
Mais là, comme ça, je ne pourrais pas vous dire. Moi, je sais que dans mon équipe, il manque 3 ou 4 infirmiers anesthésistes.
D'accord.
équivalent temps plein.
Donc si ça se répercute un petit peu sur tous les services, on peut vite voir que ça va...
C'est un petit bloc, hein, donc c'est une petite équipe. Je vous dirais d'une façon générale, il manque du monde partout.
3-4 absents sur une petite équipe, ça montre un petit peu quand même le problème qui peut se poser sur des plus grosses équipes.
3-4 absents sur une petite équipe, ça veut dire une ou deux salles qui ferment.
Ouais.
Une ou deux salles qui ferment, ça veut dire des patients qui ne sont pas opérés, qu'il va falloir reconduire. C'est important, non, ça a un impact, ça c'est sûr. Après, en fait, les difficultés de l'hôpital de Nevers sont les difficultés de l'hôpital. Il y a des spécificités locales qui sont liées à la situation de la Nièvre. On est un territoire qui est peu attractif, parce que un peu dans la diagonale du vide, mais on a aussi une population locale qui dévalorise tout le temps ce qui se passe à Nevers. Ça n'aide pas. Moi, j'adore être à Nevers, je fais plein de trucs à Nevers, et quand je parle à mes collègues, certains me diront qu'il n'y a jamais rien à faire, qu'il ne se passe rien, mais c'est totalement faux.
Ouais.
Et il faut d'abord
que la
population locale se mobilise pour faire reconnaître sa ville, parce qu'on est vachement bien placé, on est quand même une ville où l'immobilier est le prix le plus bas en France. Je pense que c'est un peu cliché, mais on dirait que c'est une ville où il fait bon vivre, on est bien.
Et je pense que travailler à l'hôpital de Nevers a des avantages par rapport à travailler dans des hôpitaux de grosses, grosses agglomérations comme Lyon, c'est quand même un peu plus détente, peut-être, j'imagine.
Oui et non. Alors, pourquoi ? Je m'explique, ça c'est intéressant. Vous êtes dans une petite équipe avec un bloc qui est plutôt à ambiance familiale, qui est un peu comme tous les blocs avec aussi son lot de tensions et de conflits, mais bon, on fait ce qu'on peut. Vous êtes par contre dans un hôpital où il n'y a pas grand-chose autour. Donc vous êtes un peu le seul intervenant pour 100 km à la ronde.
Ouais.
Oh oui, et ça, c'est une spécificité locale, parce que ça nous force, ça nous oblige à faire de la chirurgie très, très, très lourde, parfois un peu en urgence. Quand vous avez besoin d'une chirurgie, par exemple, de l'aorte, parce que là, ça se joue dans les minutes, dans les heures qui viennent, des fois, on est le premier intervenant. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui est la spécificité locale, c'est qu'il n'y a plus grand-chose autour. Et par exemple, ils ont fermé des services d'urgence là au nord et au sud du département. Ouais. Et quand vous fermez les périphéries, tout se rentre sur l'hôpital référent. Ça, c'est une spécificité de Nevers, mais il y en a d'autres partout en France. Si vous fermez les centres périphériques qui venaient désengorger un petit peu le central se retrouve saturé. Et là, je pense surtout aux urgences, et on le voit dans les chiffres qui ont été avancés là, dans la presse, etc. Si vous avez un service qui est dimensionné pour 10 000 passages par an et que vous en avez 30 000, ça peut pas fonctionner.
Oui, forcément, évidemment.
Si votre service va marcher 100% avec 27 médecins et que vous en avez que 6, ça ne peut pas fonctionner. C'est évident. Et ça, il faut aussi... Mais ça, c'est le devoir de chaque citoyen, après, de s'en préoccuper, de se dire, bon, comment ça se fait ? Vous avez des réponses politiques qui sont disproportionnées, des fois, qui sont vraiment à deux doigts du foutage de gueule. Quand on dit qu'on va vous augmenter d'un euro... Excusez-moi, mais ça fait sourire tout le monde, quoi. Quand on dit que la problématique de la ruralité en France et donc des déserts médicaux va se résoudre avec un an de plus pour dans les formations des médecins généralistes, c'est faux.
Les flying doctors, ça a été une bonne réponse ?
Donc ça, c'est pas à moi d'en juger. Ça a été une réponse.
Parce que je trouve qu'il y a un contraste assez étonnant avec la population qui se plaint qu'il manque de médecins dans la Nièvre.
Ouais.
Mais quand M. Thuriot amène cette solution-là, faut prendre l'avion, c'est ridicule.
Ça en dit long sur le fait qu'on soit jamais content.
Et voilà, ça rejoint un petit peu.
Déjà parce qu'on est français et qu'on aime beaucoup se plaindre.
C'est le côté parisien neversois, ça.
Et aussi parce qu'on est nivernais, donc pour nous, notre région, c'est la plus nulle et Nevers, c'est la ville la plus nulle. Non, déjà c'est faux, faut casser ça. Je pense que c'était une solution innovante. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça d'ailleurs. C'est innovant à plus d'un titre, puisqu'il y a des médias nationaux qui sont intéressés à ça.
Oui, bien sûr. KFM était présent, pas que nationaux.
Et oui, la presse locale aussi. C'est pas à moi de préjuger l'organisation. Je pense que ça a permis. Enfin, toutes les initiatives qui permettent de ramener du soin et de l'offre de soins sur Nevers sont bonnes. J'ai pas entendu parler de beaucoup de maires en France qui fassent ce genre d'initiative. Après, est-ce qu'elle était bonne, etc. Bon, je mets des réserves. C'est toujours bien d'attirer du monde sur Nevers. On râle toujours sur ce qui va pas. Mais il faut aussi voir ce qui va bien.
Il faut essayer de relativiser sur les
choses. Sur l'hôpital local, il y a quand même un certain nombre de services qui fonctionnent bien. Et vous pouvez vous faire soigner de bonne qualité à Nevers. Ça c'est une réalité. Il y a aussi, et il faut le dire, des services qui ne vont pas bien pour un certain nombre de raisons. Donc c'est pas à moi de les expliquer. Et ça, il faut s'en préoccuper. Mais il y a toujours un petit peu une omerta.
Ouais.
Parce que, en fait, qui dirige l'hôpital public français, ce ne sont plus des soignants, ce sont des administratifs.
Qui ne connaissent pas forcément la réalité du terrain aussi.
Non, mais attendez, ils sont des hauts fonctionnaires, ils connaissent pas la réalité du terrain, mais c'est pas grave, parce que la réalité du terrain, vous pouvez vous en inquiéter. Si vous en avez quelque chose à faire, vous allez voir les professionnels concernés. Mmh. Et en fait, on le voit dans la santé aujourd'hui, surtout chez les infirmiers, les principaux intéressés ne sont plus consultés, ne sont pas consultés, et quand on dit quelque chose, on dit oui, 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 et derrière, tout est déjà géré. Ça, c'est une réalité. Donc, si vous voulez voir, si vous voulez demander des comptes sur la situation de l'hôpital en France, il faut aller voir ces gens-là.
Ouais.
Et ces gens-là, eux, on leur demande de faire l'impossible, c'est-à-dire d'être presque rentable, voire rentable, sans moyens, sans... C'est ouais. Impossible, impossible. Vous ne pouvez pas être rentable à soigner des gens en France.
J'aimerais qu'on termine avec ça. Tout à l'heure, vous avez dit que vous recrutiez.
Oui.
Alors, en deux, trois phrases... Après ce discours motivant pour les jeunes étudiants, pour les personnes qui veulent rentrer dans le milieu médical, qui veulent devenir infirmier anesthésiste, qu'est-ce qu'il leur faut ?
Vous avez un certain appétit pour l'apprentissage. Vous êtes un petit peu frustré de vos formations d'infirmier. Et c'est important, il ne faut pas que ce soit péjoratif. Il faut dire que ce point de départ, c'est « il m'en manque un petit peu ». Donc vous êtes un peu frustré parce qu'on vous a dit pendant vos cours d'infirmier « Ah ça ne vous concerne pas ». Hop, et on passe la diapo suivante. Et bien derrière la porte de « ça ne vous concerne pas », il y a tout un monde de connaissances,
ouais.
De capacités, de compétences qui peuvent être à votre portée si vous deviez infirmier anesthésiste. Alors c'est peut-être un peu pompeux de le dire comme ça. En fait, vous êtes spécialisé dans les soins critiques, vous faites... de l'anesthésie réanimation, ça va de pair. Ce que vous induisez un coma, vous entretenez votre coma, vous faites de la réanimation péropératoire. C'est ouais. Dans ce sens-là que vous êtes. C'est aujourd'hui, je trouve, une des plus belles formations paramédicales françaises. C'est une spécificité très reconnue hein, à l'international. Et en vrai, il y a peu de pays qui travaillent comme nous. Nous, on a la chance d'avoir ce bijou, cette formation, puisqu'on va vous mettre un très haut niveau de compétences. On sort du modèle d'infirmier, parce que les infirmiers travaillent sur prescription et rôle propre. Ouais. On sort totalement de ce schéma-là, et maintenant, on vous donne plus d'outils et plus d'autonomie. Par contre, on ne vous apprend pas à en faire n'importe quoi. Donc voilà, venez chez les infirmiers anesthésistes si vous avez envie de vous investir sur un patient à la fois, et pas à 40. Si vous avez envie d'avoir des journées qui sont un petit peu plus engageantes sur le plan de la stratégie. Bon alors, je dis ça, et dans le même temps, bah, des fois, nos réalités, c'est passer 7 heures assis sur une chaise parce ouais. que tout se passe bien. La chirurgie est juste très longue parce que très compliqué.
Il faut juste attendre.
Et vous pilotez, voilà. C'est vrai qu'il y a des métaphores en anesthésie et celle de pilote est très très bien. Un pilote d'avion, vous faites le décollage, vous avez parfois un vol très long qui va se passer très bien, sans turbulence, et vous êtes en mode pilote automatique, ouais. Puis ensuite vous posez
votre avion. C'est le décollage et l'atterrissage qui sont les deux,
le décollage,
les deux moments
c'est
forts.
Quand vous endort, l'atterrissage quand vous réveillez, c'est des moments à risque, effectivement. Et de temps en temps, vous avez des turbulences pendant le vol, et de temps en temps c'est très calme. Que ce soit calme ou qu'il y ait des turbulences, tout le monde sera content d'avoir un pilote pendant qu'on s'occupe de vous.
C'est une belle métaphore.
Une belle métaphore qui nous correspond bien. Et puis, il y a un travail qui est fait aussi avec les pilotes de ligne pour tout notre checklist, nos façons de répondre aux crises. C'est surtout une discipline que ça intéresse des futurs soignants en anesthésie. Même presque si vous êtes médecin, que vous voulez choisir votre spécialité d'internat, c'est une discipline qui est ultra dynamique, où il se passe tout le temps de nouvelles choses, où il y a sur le papier en tout cas, mais souvent dans la réalité, il y a quand même une belle symbiose entre médecin et infirmier. Vous n'avez plus qu'un seul répondant en fait. Vous êtes infirmier anesthésiste, votre seule référence c'est le médecin anesthésiste. Quand il sort de la salle, c'est vous le seul professionnel de l'anesthésie. En France, il y a 11 000 médecins anesthésistes actuellement, ouais. Il y a 11 000 infirmiers anesthésistes actuellement en France. On est sur un bel équilibre. Après, vous avez plus d'autonomie, vous avez aussi la sensation d'être plus acteur du parcours santé des gens. Ça, c'est ce qui me motive. Vous avez une chance, quand vous êtes infirmier anesthésiste, d'impacter directement, de façon positive, la prise en charge des gens. Rejoignez-nous.
Très belle campagne de pub. Merci beaucoup,
merci.
Sylvain Leflon. Merci beaucoup. « Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop rock. Je vous donne rendez-vous demain à 10h30 pour Action, votre rendez-vous ciné sur Bac FM. Je serai avec Manuel Housset et Laetitia. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 10h30. Bonne soirée, à demain.